Chers fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver. J'ai choisi de vous offrir aujourd'hui une émission sur un thème en regard de l'actualité, puisque l'on parle beaucoup actuellement de cette programmation énergétique tout à fait contestable. Et le titre de cette émission est le suivant, « Éolien et solaire, la coûteuse illusion des énergies renouvelables intermittentes ». Et pour traiter d'un sujet aussi vaste et aussi contemporain, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio de Radio Courtoisie Christian Gérondeau, ingénieur général des ponts et chaussées, ancien président des anciens élèves de Polytechnique, ancien délégué interministériel à la sécurité routière, ancien président de la Caisse des monuments historiques, haut fonctionnaire climato-réaliste. Et puis à ses côtés, Philippe Baudereau, avocat, membre du comité scientifique de patrimoine environnement, avocat ayant fait condamner l'implantation d'éoliennes. Et vous n'aurez pas manqué de voir dans le Figaro du jeudi 29 janvier dernier un article concernant la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'initiative de Philippe Baudereau, qui a reconnu qu'en ce qui concerne les éoliennes, la justice a reconnu leur lien avec les problèmes d'angoisse. Et puis, à côté de mes invités Christian Gérondeau et Philippe Baudereau, un troisième invité, c'est mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine et il va nous offrir une fable. Et à défaut de trouver une fable sur les éoliennes ou sur les panneaux solaires chez La Fontaine, j'ai trouvé cependant quand même une fable qui s'intitule « Phébus et Borée ». Phébus, c'est le soleil, et Borée, c'est le dieu nordique du vent. Et je vous en donne lecture. C'est la fable 6, c'est la fable 3, du livre 6 de La Fontaine. Borée et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne quand la précaution au voyageur est bonne. Il pleut, le soleil luit, et l'écharpe d'iris rend ceux qui en sortent avertis. Quand c'est moi, le manteau leur est fort nécessaire. Les latins les nommaient douteux pour cette affaire, que le manteau tôt s'en aille au diable. Les battements pouvaient nous en être agréables. Vous plaît-il de l'avoir ? Eh bien, gageons-nous deux, dit Phébus, sans tant de paroles, à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallait pas plus. notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon, siffle, souffle, tempête et brise en son passage, main toit qui n'en peut, mais fait périr main bateau. Le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne pût s'engouffrer devant, cela le préserva. Le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis, sitôt qu'il fut au bout du terme, qu'à la gageure on avait mis, le soleil dissipe la nue, recrée puis pénètre enfin le cavalier, sous son balandrap fait qu'il sut, le contraint de s'en dépouiller, encore n'usa-t-il pas de toute sa puissance, plus fait douceur que violence. Voici cette fable un peu difficile de Jean de La Fontaine, du livre 6, fable numéro 3. Et maintenant, je vais avoir le plaisir de vous rappeler le thème de cette émission, éolien et solaire, la coûteuse illusion des énergies renouvelables intermittentes. Et je m'adresse à Christian Gérondeau. Cher Christian Gérondeau, ce titre vous convient-il au moment où l'on parle beaucoup de la PPE 3, c'est-à-dire la programmation énergétique, la pluriannuelle énergétique proposée ou envisagée par le président Macron?
Ah ben, le titre est d'actualité, éolien et solaire. Effectivement, c'est une des composantes de la programmation pluriannuelle énergétique qui vient d'être signée par le Premier ministre. Il faut faire de l'éolien et du solaire. Alors, est-ce que c'est vrai? On peut en douter. Et je voudrais, pour qu'on comprenne bien les choses, resituer cette politique de création d'éolien et de solaire dans un cadre beaucoup plus général. En fait, cette politique ne fait qu'appliquer la théorie du pacte vert, qu'on appelle en anglais Green Deal, de l'Union européenne. Que dit ce pacte vert? Ce pacte vert dit « la planète est en danger, il faut donc que nous, Union européenne, nous supprimons totalement nos émissions ». Il est même précisé, en 2050, il ne faut plus émettre de CO2. Alors, la question que je vais évoquer n'est pas de me demander si c'est possible ou pas, mais à quoi ça servirait? Alors, pour ça, il faut faire quelque chose d'assez simple, la distinction entre le flux et le stock. Le flux, c'est quoi? C'est chaque année les quantités de CO2 que l'Union européenne envoie. Le stock, c'est ça qui compte, c'est la masse du CO2 atmosphérique. Et alors, je solliciterai nos auditeurs en leur demandant s'ils ont un téléphone et qu'ils essayent de voir quelle est l'importance du stock, c'est-à-dire ce qui compte, c'est au-dessus de l'atmosphère, et du flux. Alors c'est très simple, il suffit d'appuyer sur un moteur de recherche n'importe où et de poser deux questions. Combien y a-t-il de tonnes de CO2 dans l'atmosphère? La réponse est très simple, il y en a 3300 milliards. Il n'y a pas, personne ne discute, ça se trouve tout de suite dès qu'on fait la recherche. De combien les émissions de l'Union européenne augmentent-elles cette quantité de 3300 milliards? Et là aussi, on a la réponse tout de suite, de 1 milliard par an. Donc, vous voyez tout de suite, on va changer tout en supprimant 1 milliard, alors que le phénomène, il est de 3300 milliards. Autrement dit, ce que nous demande l'Union européenne ne sert à rien. On ne peut pas agir sur 3300 quand on représente 1. Ça n'a pas de sens. Alors vous direz, mais c'est quand même bizarre. Ce pacte vert, il a été fait par des fonctionnaires, etc., des gens sérieux. Et est-ce qu'ils ont cherché à chiffrer l'impact que pourrait avoir ce pacte vert, c'est-à-dire la suppression total des émissions, qui est l'objectif. L'objectif, c'est arrêtons de polluer, arrêtons nos émissions. Eh bien, le pacte vert, c'est un document qui fait 28 pages. Alors, on vous explique qu'il y a 1 million d'espèces qui vont disparaître, que la planète est vraiment en un état épouvantable, donc il faut supprimer nos émissions. Mais vous pouvez chercher le chiffre qui serait quel est l'impact de ce qu'on nous demande, supprimer nos émissions, sur le climat. Ben vous cherchez, il n'y a pas de chiffre. Et pourquoi il n'y a pas de chiffre? Parce que s'il y avait un chiffre, ce serait zéro. Parce que, bien entendu, ça ne change absolument rien qu'il y ait 1 milliard de tonnes de plus par an ou de moins, quand le vrai phénomène, c'est-à-dire la présence du CO2 dans l'atmosphère, est de 3300 milliards de tonnes. Donc, c'est tout à fait bizarre de penser qu'on a une politique européenne avec des conséquences dans tous les domaines. Bon, la voiture électrique...
Oui, la voiture électrique avec une réaction quand même assez saine de la population maintenant qui estime que c'est invraisemblable de limiter les voitures thermiques en 2035.
Bien entendu, mais pourquoi est-ce que les constructeurs automobiles n'ont rien dit? Alors ça, c'est une raison tout à fait bizarre. C'est qu'ils disent, ah ben, le climat, le dossier du climat, c'est pas nous, c'est des experts. Et que disent les experts, il faut supprimer nos émissions, donc nous, on obéit.
Mais parlons précisément des experts. Je voudrais que vous rappeliez aux auditeurs ce qu'est le GIEC.
Oui, alors c'est des faux experts.
Experts, mais il faut le dire, parce que c'est toujours présenté dans les médias officiels comme étant un groupe
bien
d'experts,
entendu.
Alors que ce sont les représentants des gouvernements.
Mais exactement, puisque le
vrai... Je vous laisse le définir.
Non, mais c'est très simple à vérifier.
La traduction anglaise.
Que veut dire le GIEC? C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Groupe d'experts. Mais c'est faux, parce que le titre anglais,
voilà.
Il n'y a pas panel of experts, il y a panel, tout court. Parce que le GIEC, c'est un organisme politique.
Qui relève de l'ONU.
Et pour montrer la perversion, parce que ça remonte donc à presque 40 ans, les auteurs du GIEC, bon, en anglais, ils n'ont pas réussi à tricher, mais toutes les traductions, en français, en espagnol, en arabe, en chinois, tout ce que vous voulez, le mot anglais panel est traduit par groupe d'experts, alors que ce ne sont pas des experts, c'est les représentants des 190 gouvernements de la planète. Vous pensez bien que le Zimbabwe ou le Sri Lanka ou n'importe, ont des experts en climat, mais on se moque de qui? Donc, ce sont de faux experts. Mais je reviens à ce qui me paraît absolument essentiel. Le monde entier, alors depuis le Pacte vert, mais depuis en réalité le sommet de Rio en 1992, ça va faire 34 ans, un tiers de siècle, le monde entier vit sur la confusion du flux et du stock. C'est absolument sidérant. Il suffit de regarder ce que nous émettons et de bien comprendre que c'est pas ce que nous émettons qui est minuscule chaque année qui peut avoir un impact sur le climat. Mais que c'est la masse qui existe. Et si elle n'existait pas, cette masse, on ne serait pas là pour parler à la radio. La Terre ressemblerait très bien à la Lune, c'est-à-dire sans aucune végétation et sans aucun être vivant. Donc, grâce au CO2, nous vivons. Et bien entendu, ce CO2, il était là, au moins en grande partie, avant que nous, on commence à émettre du CO2. Parce que s'il n'avait pas été là, encore une fois, il n'y aurait pas de vie sur la Terre.
Absolument.
Donc, on a vécu avec cette confusion. Et je suis quand même optimiste parce que là, on ne fait pas appel à des modèles mathématiques très compliqués. On dit, on a d'un côté 3300 milliards de tonnes, de l'autre 1 milliard de tonnes. Est-ce qu'avec 1 milliard de tonnes, on peut agir sur 3300? Il n'y a pas besoin de faire d'études supérieures, c'est du niveau du primaire pour qu'on vous réponde, ben non, ça ne sert à rien. Eh bien, le pacte vert de l'Union européenne ne sert à rien, il sert à une seule chose, c'est nous ruiner. Parce que on a vu les voitures électriques, ça coûte au moins 50% de plus qu'une voiture thermique. Et encore une fois, ça ne sert à rien, puisque les voitures en circulation, qui sont essentiellement d'essence ou diesel, c'est 20% des émissions de l'Union européenne, c'est-à-dire 20% de 1. Et vous pensez qu'avec 20% de 1, vous allez changer 3300. Donc
bien
c'est
sûr.
Vraiment... Alors, c'est ce qui explique le titre du livre que je vous ai montré, mais qui sera en livre dans 15 jours,
voilà.
Qui s'appelle « La décarbonation ne sert à rien et nous ruine ». Parce que c'est la stricte vérité. Et personne ne peut dire le contraire. Mais ce qui est extrêmement étonnant, c'est que ce rapprochement entre le flux et le stock, tout au moins avec cette limpidité, ne soit pas fait. Et que les gens qui nous disent « il faut supprimer nos émissions », ne sortent pas un chiffre sur l'impact de cette mesure. Et encore une fois, ce chiffre, si on devait le sortir, c'est zéro. Ça ne sert à rien, ce qu'on nous demande. Eh bien, vous ne pouvez plus voir une publicité à la radio, à la télévision, ce qu'on vous explique. oh là là, moins de CO2, il faut faire le bilan carbone, il faut isoler vos maisons, mettre des pompes à chaleur, il faut bien entendu construire des éoliennes et des panneaux solaires pour supprimer nos émissions. Ça ne changera rien, puisque nos émissions, c'est une petite poussière par rapport au vrai phénomène, le vrai phénomène qui existe, qui est l'effet de serre, et qui, lui, ne nous a pas attendus. Donc, c'est très curieux de penser que le monde entier, depuis un tiers de siècle, se trompe pour avoir confondu le flux et le stock. On nous dit, on nous répète tous les jours, supprimez vos émissions, supprimez vos émissions. Mais nos émissions, c'est, excusez-moi, peanuts, c'est pratiquement rien par rapport à ce qui existe. Et donc, supprimer nos émissions ne changera rigoureusement rien, sauf que ce sera une ruine. Alors, il y a quelqu'un qui le dit, alors c'est très, très mal vu.
C'est-à-dire le doublement du prix de l'électricité, il faut être clair.
Ah ben, on l'a déjà doublé. Oui. Depuis qu'on a construit des éoliennes.
Tout à fait.
On l'a déjà doublé, mais on va le redoubler.
C'est-à-dire qu'on va s'aligner sur l'Allemagne.
L'Allemagne, qui est un comble. C'est extraordinaire, parce que nous, on était cartésiens, on était le pays de Descartes. Jamais les Allemands. Alors, les Allemands, c'est prodigieux. Ils veulent supprimer leurs émissions. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suppriment leurs centrales nucléaires. Non, mais il faut déjà le faire, puisque c'est une source d'électricité qui n'émet absolument pas de CO2.
Ils recourent à la lignite.
Alors, qu'est-ce qu'ils font à la place ? Ils font des éoliennes et des panneaux solaires. Mais quand il n'y a pas de vent, est-ce qu'ils vont arrêter les usines de Volkswagen ou de BMW ?
Ils recourent à la lignite.
Alors, à ce moment-là, ils sont en train, en ce moment, de construire une nuée de centrales à gaz et à charbon pour pallier les déficiences de l'électricité produite par l'éolien et par le solaire. Absolument. Alors, on est complètement ébahis. C'est-à-dire que pour supprimer les émissions de CO2, ils ont commencé par arrêter les centrales nucléaires et maintenant ils construisent des centrales à charbon. Alors, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, nous avons suivi, nous n'avons rien dit pendant des années. On en a même rajouté en disant, mais oui, il faut faire des éoliennes. Et puis, il y avait un programme du Parti Socialiste de l'époque, il faut qu'on ait moitié solaire, enfin moitié intermittente et moitié nucléaire. Pourquoi ?
Bien sûr.
Si vous voulez, moi ça m'évoque une image. On a inventé les avions réaction. Bon, avant il y avait les avions hélices. Est-ce qu'on va dire, il faut moitié avion à réaction, moitié avion à hélice pour traverser l'Atlantique ? Bien sûr, il n'y a plus que des avions à réaction. Je ne parle pas des voiliers qui mettaient de moi autrefois. Ça rime à quoi ? Ça ne rime à rien. Ce sont des idéologues et des gens qui ne connaissent pas la règle de trois qui ont pris le pouvoir. Et qui, alors, espérons qu'ils comprendront la différence entre le flux et le stock.
Alors, chers amis auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio Courtoisie Christian Gérondeau. Alors, n'hésitez pas à en profiter en nous adressant vos questions, en questionnant Christian Gérondeau, dont je souligne qu'il vient de terminer la rédaction d'un ouvrage qui va paraître dans 15 jours. Je vous en donne les éléments essentiels. Le titre, la décarbonation ne sert à rien et nous ruine. La décarbonation ne sert à rien et nous ruine, avec comme sous-titre « Confondre le flux et le stock ». Et avec la bande rouge, le désastre de la PPE. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a fait l'objet justement d'une intervention du gouvernement actuellement. Cet ouvrage qui va paraître sous 15 jours sera vendu au prix de 9,90 €. Et cet ouvrage est édité par les éditions de l'Artilleur. Édition de l'Artilleur, 9,90 €. Christian Gérondeau, la décarbonation ne sert à rien et nous ruine. N'hésitez pas à acquérir cet ouvrage et à poser vos questions. Et je me tourne vers Maître Philippe Bodereau. Alors Philippe Bodereau est membre du comité scientifique de patrimoine environnement et c'est un avocat qui a fait condamner l'implantation d'éoliennes par le passé et qui récemment s'est fait reconnaître par la justice un lien des éoliennes avec les problèmes d'angoisse que peuvent vivre les personnes qui habitent à proximité des éoliennes. Et je passe la parole à notre ami Philippe Bodereau. Cher maître, que pensez-vous d'abord du titre
Oui, ben justement, j'allais vous en parler, justement.
Voilà, je vous laisse le soin de l'évoquer.
Il y a un mot qui m'intéresse beaucoup, le verbe m'intéresse beaucoup, et une ruine. Alors, quand vous dites nous, il faut quand même peut-être faire une distinction, peut-être essayer de...
Plus fort.
Voir qui est nous, hein, parce que ça ne ruine pas tout le monde. Hein. Essentiellement, ça profite quand même à beaucoup de gens sur le plan financier qui sont au plus haut sommet de l'État. Et quand je dis au plus haut sommet de l'État, c'est au pluriel. Au plus haut sommet des États de l'Europe. Et je ne parle pas certains propriétaires qui ont des terres, qui n'habitent pas à la campagne, qui habitent en ville et qui ont des terres et qui, par des bruits amphithéotiques, acceptent que soient implantées des éoliennes. Alors, oui. C'était la première chose. Je souhaite également à préciser ceci, c'est que quand vous avez dit également, M. Gérondeau, que les représentants de l'UE se trompent, non, ils ne se trompent pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est mon point de vue, si vous voulez. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas bien compte ou feignent d'ignorer les réalités objectives. Moi, je les vois passer dans mon cabinet. J'ai pas mal de gens que j'ai rencontrés, bien évidemment, beaucoup de dossiers sur ce problème-là.
Je précise que vous êtes avocat à Arras.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Et je reçois beaucoup de clients qui subissent l'implantation des éoliennes.
Oui.
Et qui... On le désir de
dans
le
les
faire
Hauts-de-France,
en sorte.
Il y a beaucoup de.
Pas que dans les Hauts-de-France, bah, j'en ai aussi dans toute la France.
En Seine-Maritime, c'est affolant.
Il y en a bientôt très proche, parce qu'ils veulent mettre, je crois, 150, je ne sais plus, en mai. Enfin bref, c'est quelque chose de catastrophique. Oui. Alors, nous sommes des gens de terrain en réalité. Nous rencontrons les justiciables, les citoyens lambda, comme on dit, qui se voient affublés. De ces engins énormes, aujourd'hui de plus en plus hauts, je crois que certains vont jusqu'à 160 mètres de haut, vous vous rendez compte, et qui ont beaucoup de mal à supporter c'est la situation. Et on a l'impression que finalement, les responsables des différents États feignent, ne se rendent pas compte, s'en rendre compte. Lorsque vous êtes, moi j'aimerais bien parler, si vous voulez, sur le plan simplement concret, si j'achète demain une propriété à la campagne, j'achète une propriété à la campagne, d'abord c'est le premier point auquel on ne pense pas. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que la décision qui était rendue par le tribunal de Strasbourg, et Strasbourg c'est pas Senlis ou Compiègne, hein, c'est quand même une ville très importante.
Oui. Hein.
Quand on prend en considération ce qui a été retenu par Strasbourg, c'est le lien direct de causalité entre le fonctionnement des éoliennes et l'angoisse.
La valeur.
Et l'angoisse et ce qu'on peut ressentir, le stress que l'on peut ressentir. Pourquoi ? Alors le problème c'est ça, pourquoi ? Eh bien, sur le plan psychosomatique, la première des choses, il faut bien comprendre cela. Lorsque vous avez près de chez vous, vous avez une maison à la campagne, vous profitez depuis un certain nombre d'années du calme, paisible, champêtre, etc. Bon. Arrive une éolienne, qu'elle soit à 500 mètres, 750 mètres, 1 km, peu importe. Le premier effet que vous ressentez, c'est l'obstacle à votre désir d'évasion. Quand vous avez une éolienne de 160 mètres de haut, et souvent il y en a plusieurs, qui se dresse devant vous, qui se dresse dans votre paysage, c'est un obstacle à votre désir d'évasion. Quand je vais à la campagne, c'est pour m'évader. Quand je vais à la campagne, quand j'achète une petite maison à la campagne, c'est pour me faire plaisir, c'est pour, avec mes enfants, ma famille, m'évader, avoir un regard prolongé sur l'horizon.
C'est pour vous ressourcer.
Pour me ressourcer, je sors de la ville, je sors du monde urbain, et je me ressource et je m'évade. Lorsqu'on me met une éolienne devant moi, on coupe. On agresse directement mon désir d'évasion. Ça, c'est une évidence. Si l'on construit, par exemple, une route, ça ne bloque pas mon regard. Ça n'empêche pas mon regard de se projeter, de mon désir d'évasion se projette dans la campagne, dans l'horizon. Ce qui n'est pas le cas avec une éolienne. Ça, c'est le premier point. On n'y pense pas, mais c'est une réalité objective. Les gens me disent, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, maître, on a devant nous maintenant cette espèce de truc, c'était abominable, on peut plus... Voilà. Ça, il faut le comprendre, mais j'ai l'impression que personne ne le comprend, ou feint de ne pas le comprendre. La deuxième chose, c'est que, et là on en vient à l'évolution de la jurisprudence, en quoi cette décision est importante ? Ben, c'est une avancée énorme, sur le plan jurisprudentiel. Certes, c'est une décision de jurisprudence, c'est une décision de première instance, on est d'accord, c'est le tribunal judiciaire. Comme je viens de le dire, Strasbourg n'est pas Senlis. même si j'ai rien contre la ville de Senlis, qui est une ville magnifique, c'est quand même au niveau d'importance de la cité, c'est quand même pas la même chose. Voilà. Donc, c'est quand même un impact.
C'est
donc,
une très belle
quelle
ville,
que soit la suite, quelle que soit la suite qui pourra être éventuellement donnée, j'en sais rien. En tout cas, c'est un précédent. Et pourquoi c'est un précédent important? Parce que je veux vous lire la partie qui est importante, qui est intéressante de cette décision. Voilà ce qu'indique. Alors, nous avons eu bien évidemment des experts qui se sont penchés sur la question. Oui. Et l'expert judiciaire a précisé que, effectivement, selon lui, un stress et une anxiété rapportés à cette perception du bruit continu des éoliennes qui ont été pris en compte et ont fait retenir un déficit fonctionnel, etc. Et le tribunal a retenu ceci. Le tribunal retient que le fonctionnement des éoliennes implantées à proximité de l'habitation de Madame Intel est la cause directe et certaine du stress et de l'anxiété ressentis par l'intéressé. Et c'est pas moi qui l'invente. Et le mot anxiété a pour synonyme angoisse. Et ce terme d'angoisse, ce mot utilisé d'angoisse dans son acception, est extrêmement important parce que ça se rapporte en quelque sorte à une jurisprudence qui a été, qui est issue d'un arrêt rendu par la deuxième chambre en 2017 concernant un prise d'angoisse subie par une dame nosophobe qui en plus avait la crainte de la mort et qui, angoissée par la mort, après son décès, a permis aux héritiers eux-mêmes de percevoir un prise d'angoisse de la décédée.
L'indemnité.
Et ici, dans notre dossier, c'est le mari lui-même qui a obtenu un préjudice moral suite aux difficultés psychosomatiques rencontrées par son épouse. Voilà la situation. Alors, je ne comprends pas, franchement, très honnêtement, je ne comprends pas qu'on soit obligé de se battre comme on l'a fait pour que ce soit reconnu. En fait, il y a des intérêts en jeu, bien évidemment, à ce niveau-là. Et je suis d'autant plus étonné qu'il y a, j'ai un document en main, qu'un document officiel concernant la prévention de la santé et la sécurité au travail.
Oui.
Qui, justement, demande aux employeurs, c'est un document de 2015, qui indique ceci, oui. Effet physiologique des infrasons, car il faut distinguer les infrasons des ultrasons. Les infrasons sont, effectivement, extrêmement dangereux. Et c'est ce qui a été retenu, quand même, dans notre dossier. Je cite, les agressions infrasoniques sur l'organisme, on entend parler souvent des ultrasons, mais les infrasons, on n'entend pas beaucoup parler. Maintenant, il faudrait peut-être quand même qu'on s'y penche.
Sauf pour les oiseaux, je crois.
Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, les oiseaux, c'est d'accord. Okay.
Mais c'est dramatique.
Mais l'être humain aussi, bien je veux dire, c'est sûr. Encore plus dramatique.
Bien sûr.
Les agressions infrasoniques sur l'organisme se font insidieusement car elles ne sont pas perceptibles par l'ouïe, un son trop grave. Si les infrasons sont inaudibles, leur pression acoustique peut se ressentir à partir d'une certaine intensité en particulier par l'intermédiaire des vibrations résonnant au travers du crâne et de la cage thoracique. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, Perpon, il s'en est doute, j'ai un nombre relativement important de rapports qui ont été faits par des scientifiques des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne et en France aussi, et qui ont retenu ce qu'on appelle le syndrome de l'éolien. Et le syndrome de l'éolien, c'est des symptômes. Alors c'est quand même assez préoccupant. Hein,
non, mais j'évoquais les oiseaux parce que les tenants de l'écologie politique, que je distingue des écolos, les tenants de l'écologie politique s'intéressent davantage aux oiseaux qu'aux humains.
Oui, on est d'accord. Je suis complètement d'accord. Oui, je suis atterré souvent devant ce type de constat. Et alors, j'aimerais quand même souligner, quand même, parce que je pense que des auditeurs nous entendent, il est important qu'ils sachent que les éoliennes, les aérogénérateurs qui sont installés près de chez eux causent des dégâts énormes qu'on ne sent pas. Le syndrome de l'éolien, c'est quoi? C'est 12 symptômes. Troubles du sommeil, céphalée, acouphènes, bourdonnement ou tintement dans les oreilles, sensation d'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille, vertige, étourdissement, sensation d'évanouissement, vertige, sensation de la pièce qui tourne, nausées, troubles visuels, accélération des battements cardiaques, tachycardie, irritabilité, problèmes de concentration et de mémoire, angoisse associée à des sensations de palpitation, etc. Beaucoup de justiciables ont des problèmes d'hypertension, par exemple. Que ce soit pour des problèmes de FOP, de fermeture au niveau du cœur, au niveau de la paroi qui sépare les deux oreillettes du cœur,
oui.
Voilà, ou encore des problèmes d'arythmie cardiaque. Ces gens-là sont exposés, évidemment, Mais ils peuvent pas le sentir, puisque de toute façon, par définition, les infrasons ne sont que très difficilement perceptibles, pratiquement imperceptibles à l'oreille, à la différence des ultrasons, parce que ce sont des fréquences basses. Mais j'aimerais également vous dire que derrière les oreilles, c'est un peu le même phénomène que l'on ressent, pour donner un exemple très précis, dans les salles de fête ou des choses comme ça, des établissements appelés oui. à recevoir du public, l'utilisation des basses, vous savez, qui rythment,
oui.
Provoque des vibrations.
Oui,
on les entend parce qu'elles sont entraînées par des ultrasons, mais il y a des infrasons aussi, les sons très bas, en dessous de 20 Hz je crois, M. Gérondeau me démentira s'il le faut, mais on traverse les murs et les fenêtres,
traverse
tous les obstacles, à la différence des ultrasons. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse, et on est en train de nous dire aujourd'hui que, bah, qu'il faut multiplier tout ça.
Alors, mon cher Philippe Baudereau, je reviens au titre de notre émission, Éolien et solaire, la coûteuse illusion des énergies renouvelables intermittentes, coûteuse également sur le plan de la santé. C'est une pierre supplémentaire qu'il faut
bien
ajouter
sûr,
à l'édifice
bien sûr, bien sûr.
Des nuisances de ces éoliennes. Et je me tourne vers Christian Gérondeau. Christian Gérondeau, qu'est-ce que vous ressentez au propos de notre ami, de maître Baudereau?
Ah ben, je peux être évidemment entièrement d'accord, mais je vais essayer de répondre à une question qu'il a posée. Il dit, mais comment est-ce possible tout ça? Comment est-ce possible? Et parce que, bien entendu, je suis ravi que vos clients obtiennent satisfaction, si c'est le cas. Mais le problème que vous évoquez, il n'est pas local, il n'est pas seulement à Arras, il est à Strasbourg, il est dans toute la France, il est dans toute l'Europe. Et je dirais même, il est mondial. Parce que dans le monde entier, on vous a expliqué qu'il fallait sauver la planète. Et donc tous les arguments que vous pouvez mettre en face ne tiennent pas. Nous sommes, tous ceux qui disent ça, dont je fais partie, sont inaudibles. Inaudibles. Et je reviens quand même au pacte vert, puisque pour l'Europe, c'est le document fondamental qui nous dit qu'il faut supprimer nos émissions de CO2. Le début de ce pacte vert, c'est qu'il y a 1 million d'espèces en danger. Ça, c'est totalement faux, c'est de l'invention. Mais c'est quand même la base. C'est-à-dire, la planète est en danger, et il faut faire quelque chose pour la sauver. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On supprime nos émissions. Pas un chiffre sur l'impact, comme je l'évoquais tout à l'heure. L'impact, il est nul, je le répète, parce que les chiffres ne sont pas crédibles, mais ils sont vrais. La masse du CO2 dans l'atmosphère, c'est 3300 milliards de tonnes. Et l'Union européenne, toutes sources confondues, c'est-à-dire aussi bien les logements que l'habitation, que les industries, ajoute 1 milliard de tonnes chaque année, 1 par rapport à 3300. Et si on supprime nos émissions, quelle sera la différence? Aucune. Ça ne sert à rien. Donc, quand je vois tous les efforts qui sont menés par des centaines, des milliers de personnes qui n'aboutissent à rien parce que nous avons cette croyance que la planète est en danger et que nous y pouvons quelque chose. Alors d'abord, elle n'est pas en danger, mais même si elle était en danger, nous n'y pouvons rien parce que les ordres de grandeur ne le permettent pas. Et c'est vraiment la confusion du flux et du stock qui est à l'origine d'un tiers de siècle de dérive de l'esprit humain. Mais vous savez, du temps de Galilée, ceux qui osaient dire que c'était la Terre qui tournait et pas le Soleil qui tournait autour de la Terre allaient au bûcher. Alors on a une grande chance, il n'y a plus de bûcher physique. Bon, il y a un bûcher un peu intellectuel, vous n'avez pas le droit de passer sur telle radio, vous n'avez pas le droit d'aller sur telle télévision, mais c'est quand même pas la même chose que d'être brûlé vif. Mais c'est exactement le même genre de phénomène. Ceux qui disent la réalité sont traités de menteurs. Mais je suis quand même optimiste, parce que là, je pense, peut-être me trompais-je, mais je pense que le fait d'avoir mis en évidence qu'on a confondu le flux et le stock, tout le monde peut le comprendre. Il n'y a pas besoin d'équations, de modèles tels que les scientifiques en sortent et que personne n'y comprend rien. Là, on peut tout à fait faire la différence entre 1 et 3300. Et je pense que là, il y a une lueur d'espoir. Et la question que je me pose, c'est des personnalités comme notre avocat ici présent, pourrait-il faire valoir ce type d'argument? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, parce que, c'est pas leur domaine, et puis une voix isolée, elle sera noyée dans la masse. Mais c'est quand même assez curieux que ce type d'argument, qui est tout simplement que ce qu'on nous demande ne sert à rien à cause des chiffres, ne soit jamais utilisé. Mais peut-être, encore une fois, est-ce impossible quand on défend un cas particulier, il faut s'appuyer sur d'autres arguments. Enfin, on a quand même une lueur d'espoir. Et vous parliez tout à l'heure du programme pluriannuel énergétique. On vient de décider deux choses. On en vient de décider de construire des panneaux solaires, des éoliennes, en terre et en mer. En mer, elles coûtent encore trois fois plus cher. C'est une abomination. Oui. Mais on n'en a aucun besoin.
Qu'on appelle fallacieusement offshore, alors qu'en réalité, c'est absolument visible des côtes, surtout
sont
à celles
qu'on vient de construire.
Retaille.
Oui, alors il paraît que les autres, on va les construire encore plus loin, ce qui fera qu'elles coûtent encore plus cher. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est encore très curieux. Aujourd'hui, nous sommes le premier exportateur mondial d'électricité. Nous avons beaucoup trop d'unités de production, c'est-à-dire notamment de centrales nucléaires par rapport à nos besoins. Vous savez combien il y en a de centrales en dessus de nos besoins? Au moins 12. Mais on a 12 centrales de trop.
Ça devrait nous rapporter des devises.
Ça rapporte un peu de devises, c'est vrai, 5 milliards.
Mais
c'est pas négligeable.
On devrait construire davantage de centrales pour avoir davantage de devises.
Non, parce que là, le coût de revient des centrales dont les plus rapides pourraient être mis en service en 2038, il n'est quand même pas tout à fait la veille, c'est très élevé par rapport au prix de vente. Donc, en réalité, là, je me heurte probablement à certains de mes collègues, nous n'avons besoin de rien. On n'a pas besoin de panneaux solaires et d'éoliennes, mais on n'a pas non plus besoin de nouvelles centrales nucléaires, parce que les centrales nucléaires, c'est éternel. Alors ça, c'est quelque chose qui a été nié, mais qui l'est de moins en moins, même le document dont nous venons de parler, la programmation PPE, a reconnu que maintenant, on pouvait aller au-delà de 60 ans de vie. Alors qu'au début, on nous disait, mais non, pas question. En réalité, les Américains sont à 80 ans, ils vont bientôt être à 100 ans, parce que qu'est-ce que c'est qu'une centrale? C'est des murs en béton armé. Ben, nos cathédrales sont toujours là, au bout de 8 siècles, et là, c'est du béton armé. Et il y a à l'intérieur des équipements qu'il faut rénover de temps en temps. Ils appellent ça les opérations de grand carénage. Puis c'est tout. Et ça peut durer éternellement. Donc là aussi, c'est un choc quand même de se dire, mais finalement, on n'a besoin de rien d'autre que d'entretenir ce que nos prédécesseurs de génie, il faut bien l'appeler, nous ont laissé. On a 56 centrales nucléaires.
C'était une avance technologique de la France par rapport aux pays qui l'entourent. Et qui avait pour résultat de nous faire payer deux fois moins cher l'électricité que nos voisins.
Exactement, parce que nous avons doublé, à cause des éoliennes et des panneaux solaires, nous avons déjà doublé le prix de l'électricité. Sans ça, on la paierait deux fois moins cher. Mais on va la redoubler si on continue dans ce sens-là. Et c'est très, très étonnant de penser qu'on n'a besoin de rien.
Et avant que je ne passe la parole à Maître Bodereau, je voudrais revenir sur le titre de notre émission, Éolien et solaire, la coûteuse illusion des énergies renouvelables intermittentes. On parle toujours dans les médias officiels d'énergies renouvelables. On nommait toujours le terme intermittent. Il faut rappeler que les éoliennes marchent à 27% du temps, que le solaire, c'est lorsqu'il y a du soleil, et que par voie de conséquence, lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsqu'il n'y a pas de soleil, on est obligé d'avoir recours à l'énergie charbon ou gaz, qui est une énergie immédiatement activable, alors que le nucléaire ne peut pas être relancé.
Bon. On est obligé quand même, nous, puisqu'on a de moduler la puissance de nos centrales nucléaires, ce qui n'est pas très bon pour leur santé, si je veux exprimer.
Je voudrais que vous développiez justement ce caractère intermittent de...
C'est tellement évident.
Parce que nos auditeurs n'en ont pas conscience.
Ils se doutent bien peut-être que les panneaux solaires, la nuit, ça ne produit pas grand-chose. Bon, les panneaux solaires, ça produit, sous nos latitudes, 15% de ce que ça produirait s'il y avait du soleil tout le temps. Ça veut dire que 85% du temps, ça ne produit rien, enfin, pour simplifier les choses. Donc, on a... Et alors, encore une fois, je reviens à la cause originelle de tout ça, parce que tout ça sont des conséquences. La cause originelle, c'est un sophisme, mais c'est aussi une espèce de religion. Parce qu'en réalité, à l'origine de tout ça, c'est une religion.
C'est une religion.
C'est une religion, c'est la religion de Jean-Jacques Rousseau. C'est l'homme est mauvais.
Oui.
Que fait l'homme ? Ben, il utilise du pétrole, du charbon qui produit du CO2, donc le CO2 est mauvais. Il n'y a rigoureusement rien d'autre, parce qu'en réalité, le CO2 est très bon.
Parce que très bon pour la végétation, bien sûr.
Avec les rendements agricoles, plus il y a de CO2, plus de rendements agricoles. D'ailleurs, du temps des dinosaures et des premiers mammifères, il y avait 4-5 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui, et il y avait une végétation totalement exubérante.
Y compris au Groenland.
Et alors, il y avait, ça c'est des cycles, il y a eu des périodes, effectivement, le Groenland était couverte de forêts. Mais ce qui est très étonnant, c'est cette perte de raison qui a caractérisé l'humanité régulièrement dans son histoire. Il faut savoir que l'Académie française des sciences s'est élevée pendant 3/4 siècle contre la loi de la gravitation universelle de Newton, en disant que Newton était un plaisantin. Et il faut savoir que Pasteur a mis 10 ans à convaincre les médecins de l'époque qu'il fallait se laver les mains avant d'opérer un malade, puisque ce n'était pas la peine de se laver les mains, parce qu'il y avait la génération spontanée des microbes. Donc même avec les mains propres, les microbes arrivaient. Il faut savoir, dans un autre domaine, qu'il y a un scientifique, un géologue allemand, qui en 1904, je crois, a dit, tiens, c'est quand même curieux, quand on regarde la carte de l'Amérique du Sud et la carte de l'Afrique, on voit que ça s'emboîte assez bien.
Oui.
Donc, peut-être est-ce que c'était autrefois le même continent avant, et puis que ça a dérivé.
Exactement.
Eh bien, pendant un demi-siècle, tous les géologues du monde ont dit que c'était un demeuré, et qu'ils n'avaient rien compris. Et puis finalement, maintenant, tout le monde reconnaît qu'effectivement, d'ailleurs, c'est plus ou moins les mêmes races d'animaux qui sont des deux côtés, que c'était un seul continent autrefois. Donc, on ne fait que se situer dans une longue série d'absurdités.
En quelque sorte, vous avez tort d'avoir raison trop tôt.
Oui, enfin, ce que ceux qui partagent le même point de vue essayent de faire, c'est que cette période de...
C'est pour ça que j'ai dit que vous étiez un haut fonctionnaire climato-réaliste. Et je passe la parole à Maître Bodereau.
Oui, mais il y a autre chose, je vous entends avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais le phénomène qui n'existait pas jusqu'à présent, au monde Pasteur, c'était le problème de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est derrière tout. Donc, c'est le paramètre qui modifie tout. C'est le prisme qui déforme tout. À savoir qu'on a mis 10 ans pour Pasteur, ou 50 ans pour d'autres causes, là, ça ne se terminera jamais. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que depuis que les Phéniciens ont inventé la monnaie, il n'y a pas de raison que ça se termine. Ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe, ça ne se terminera pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont intérêt financier à percevoir de l'argent par rapport aux éoliennes. Et ça va se multiplier. Alors, on va mettre un peu d'espoir, si vous permettez, cher ami. Je pense que la solution, elle est dans les réalités objectives qui sont les suivantes. Les éoliennes se multiplient. Avec cette multiplication, va se créer la multiplication des plaintes.
Des mécontents.
Des atermoiements. Des mécontents.
Fait. Absolument.
Il va bien falloir que, finalement, on en tienne compte.
C'est comme pour, comme pour les voitures électriques.
Voilà. Surtout si, derrière les mécontentements et les protestations, il y a un problème de santé.
Oui.
Parce que ça, c'est quand même le point essentiel.
Il va y avoir un mouvement comme les gilets jaunes.
Mais j'espère, j'espère bien. On a un principe de précaution dont on nous rabat les oreilles régulièrement. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas en application ce principe de précaution concernant la construction de ces éoliennes à aérogénérateurs qui causent un mal terrible à la population. Donc ça, c'est l'espoir que j'ai. Maintenant, tout simplement, il faut bien comprendre ceci. Il faut bien que les gens se mobilisent, les gens qui nous entendent, qui se bougent. Moi, en tant qu'avocat, on ne peut intervenir que pour les gens qui viennent protester. Je connais trop d'associations qui font des atermoiements et qui finalement ne font pas grand-chose. Non, il faut toucher là où ça fait mal. C'est comme une partie d'échecs. Vous pouvez perdre tous les pions que vous voulez, si vous avez la structure qu'il faut, si vous mettez le pion là où il faut, si vous mettez le doigt là où ça fait mal. Vous pouvez être écouté, vous pouvez remporter votre affaire. Quand quelqu'un se voit construire à côté de chez lui une éolienne qui supporte ça depuis trop longtemps, eh bien, il peut se préoccuper des choses suivantes. Les angoisses, c'est pas être quoi ? Ben, c'est tout d'abord le fait que se dire, ben, après tout, on nous a dit, on a entendu quand même, maintenant, ce sont des médecins qui le disent. C'est même ce que je vous ai lu est un document officiel, hein, qui est un document de prévention pour la santé et la sécurité au travail. où on parle des rotations. Mais il n'y a pas plus rotation. La plus grosse des rotations, c'est les aérogénérateurs. Les éoliennes sont des
absolument.
Ben voilà, c'est 36 mètres. Enfin, je n'aime plus les chiffres, exactement, la longueur exacte, je ne l'ai plus. Mais, enfin, bref, c'est énorme, c'est énorme. Ces rotations énormes qui provoquent des infrasons. Or, on sait maintenant, c'est établi, que ces infrasons provoquent ce qu'on appelle le syndrome de l'éolien que je vous ai dit tout à l'heure avec les symptômes, et sont nombreux et sont importants sur la santé. En conséquence de quoi ? Quand je vois à côté de chez moi une éolienne qui s'installe, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, et parfois, vous savez, dans la région du nord de la France, la région, je crois que c'est dans la région de l'Aisne, etc., c'est une catastrophe, il y en a vraiment énormément. Là, on peut s'interroger sur le point de savoir, premièrement, est-ce que ça ne va pas atteindre ma santé ? Est-ce que je ne vais pas avoir un problème de santé ? Tiens, ben j'ai maintenant l'hypertension que je n'avais pas. Est-ce que ce n'est pas dû à ça ? Mais on peut très bien le faire analyser. Il faut visiter des médecins. Il faut se bouger. On ne peut pas se contenter, se lamenter en disant, puis après, passer à autre chose. Non, si on veut vraiment que ces éoliens disparaissent, il faut agir pour ça. Il faut se mobiliser. Deuxième observation, qui est aussi source d'angoisse. On construit des éoliennes à côté de chez vous. Vous avez acheté votre maison à un certain prix, quand même.
Bien sûr.
Vous êtes censé. Vous avez aussi le souhait de la transmettre à vos enfants, éventuellement. Une fois que cette éolienne sera, ou deux, ou trois, ou cinq, ou je ne sais combien, sur un siècle, quel sera le montant de la dévalorisation ?
Bien sûr.
Eh bien, cher ami, voilà autant de sujets d'angoisse, de stress, d'anxiété. Qui va dire le contraire ? Les gens de Bruxelles ? Madame Valérienne ? Qui se moquait perdument de ce que peut sentir le citoyen lambda de la France profonde. Alors il serait temps que les gens se bougent, voilà.
Christian Gérondeau.
Et on y arrivera s'ils se bougent.
Il faut le souhaiter. Ceci étant, j'ai un point de désaccord très fondamental avec notre ami Philippe Baudreau, qui dit que tout ça, c'est une affaire d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, des gens qui fabriquent des éoliennes, encore que maintenant de plus en plus elles viennent de Chine. Mais enfin, bon, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des maires qui sont très contents, des municipalités qui gagnent de l'argent. Mais ce n'est pas du tout ça la cause, c'est bien pire. C'est qu'au sommet, des décideurs, et presque partout, ils ne savent pas la réalité, ils croient bien faire. Et c'est ça leur force. C'est parce qu'ils croient bien faire qu'ils sont convaincants. Et parce qu'ils n'ont jamais ouvert le dossier. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui n'a jamais ouvert le dossier ? Alors, j'ai un exemple que je cite dans mon livre. Je parle de Total. Total, un des grands majors pétroliers du monde. Enfin, Total, qui s'appelait Total, mais qui a changé de nom.
Exact.
Pour s'appeler Total Énergie. Pour faire quoi ? Bah, je dirais pour bien adhérer à l'époque actuelle, incidemment pour faire comprendre que le pétrole, ce qui est son activité, bah, c'est vraiment pas beau. Hein. Donc on va faire d'autres énergies. Et j'ai là les citations du patron de Total, M. Pouyanné, il le dit. Nous allons nous développer dans le renouvelable pour sauver la planète. Il le dit. Oui. Et alors il y a une autre question qui est extrêmement importante. C'est qu'un journaliste, un jour, il y a deux ans, je crois que c'était à Davos, enfin peu importe, Je donne les références, lui dit, mais enfin, est-ce que vous y croyez, monsieur le président ? Et il dit, mais bien sûr que j'y crois, moi je crois les experts. D'ailleurs, je n'ai pas de spécialiste chez Total Énergie. Je n'ai pas de spécialiste du climat.
Donc je m'en remets au GIEC.
Donc je m'en remets au GIEC. Il a 110 000 collaborateurs. Il n'a pas demandé à un collaborateur d'ouvrir le dossier du climat. Mais c'est la même chose chez les constructeurs automobiles. Chercher chez les constructeurs automobiles français, allemands et puis même d'autres, un ingénieur qui était chargé d'ouvrir le dossier du climat. Vous n'en trouverez pas. Quand vous allez aujourd'hui sur le site allemand qui fait la pluie et le beau temps en Allemagne, qui s'appelle le VDA, c'est l'association des constructeurs allemands, quelle est leur priorité qui figure en haut ? Nous voulons arriver à contribuer à la lutte contre le changement climatique en supprimant nos émissions. C'est les constructeurs allemands qui le disent, mais les Français aussi. Ils n'ont pas ouvert le dossier. Alors, je suis intimement perdu, parce que ce serait grave de penser qu'on n'a que des gens qui veulent détruire notre société et qui veulent nuire. Non, ils veulent bien faire, mais ils ne connaissent pas le dossier. Et c'est ça la force, mais c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Galilée ou du temps de Pasteur. À partir du moment où tout le monde répète la même chose, c'est forcément vrai.
C'est une religion.
Et alors,
c'est une religion.
Oui, mais pour ces gens-là, Oui, enfin, c'est un aspect, il y a un aspect religieux, mais pour ceux qui sont à l'origine de tout ça, il n'y a aucun doute.
Ah,
ceux qui sont derrière, et alors on les connaît, qui sont des idéologues absolus, pour eux, l'homme étant mauvais, ce que fait l'homme ne peut être que mauvais, donc le CO2 est mauvais, et il n'y a rien d'autre. Donc, en réalité, je dirais à la fois, c'est plus grave de voir ce degré de désinformation, mais c'est aussi une source d'espoir, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ces grands chefs d'entreprise, etc., veulent nuire à l'humanité. Mais ils ne sont pas informés. Et encore une fois, c'est la répétition de ce qui s'est produit pendant des décennies, au cours des siècles. Tout le monde répète la même chose, c'est Descartes qui le disait. Il disait, lorsqu'une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontré.
Alors, mon cher Christian, cela me rappelle notre ami André Pertusio, que les auditeurs fidèles de Radio Courtoisie ont bien connu, puisque je l'ai souvent invité au micro de Radio Courtoisie. André Pertusio, qui était expert pétrolier international, ancien de la Banque mondiale, soulignait que l'on découvre chaque année actuellement, on continue de découvrir chaque année plus de pétrole qu'on en consomme. On découvre des nouveaux gisements avec davantage de pétrole que ce qui est consommé chaque année. Voilà, voilà une vérité que le monde ne connaît pas, mais qu'il faut souligner. Ceci concerne en particulier les voitures, puisque le problème de l'électricité, c'est que l'électricité est difficile à stocker, en particulier pour des véhicules, pour des avions ou pour des navires. Donc voilà une vérité qui n'est pas forcément bon de toujours souligner. Maître Baudet, oui, alors je rappelle, chers amis auditeurs, que dans 15 jours va paraître le nouvel ouvrage de Christian Gérondeau, précisément sur ce sujet de la programmation énergétique pluriannuelle proposée par l'actuel gouvernement. Et le titre de cet ouvrage, c'est « La décarbonation ne sert à rien et nous ruine » au prix de 9,90 € aux éditions de l'Artilleur. Et maintenant, vous allez écouter un bobino de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Christian Gérondeau.
Oui, j'ajouterai à la liste des gens et dont je ne suspecte pas du tout la mauvaise foi, mais la naïveté, notre Premier ministre actuel, M. Le Cornu, qui a donc signé ce document, mais qui s'est mis en colère en traitant de grotesque ceux qui affirmaient qu'on n'avait pas besoin de solaire et d'éoliennes. Alors que, je le répète, nous avons 12 centrales nucléaires de trop par rapport à nos besoins. Donc, M. Le Cornu, je ne mets pas du tout en doute sa bonne volonté, mais je constate sa désinformation totale.
Ce n'est peut-être pas le seul domaine dans lequel il fait preuve de naïveté, parlons des retraites notamment. Mais je me tourne vers notre ami l'avocat Philippe Bodereau. Philippe, que pensez-vous de cet échange avec le fait que nous ayons la chance d'accueillir Christian Gérondeau dans ce studio de Radio Courtoisie?
Bah, c'est-à-dire que moi j'ai une vision un peu particulière. Enfin,
corroborative.
Je suis effectivement comme tout le monde et tout à fait édifié par ce qui vient d'être précisé et par M. Gérondeau. Mais je vous m'excuserai, je n'arrive pas à. Qui ne m'aurait pas non plus, qui ne prête pas ombrage de ce que je veux dire, mais je ne pense pas que M. Le Cornu soit de bonne foi, voyez-vous. Je n'arrive pas à imaginer ça. Voilà, je suis désolé, je n'y arrive pas. Voilà. Moi, je ne crois pas, parce que maintenant, je peux me tromper. Je ne dis pas que ma parole est celle d'évangile, hein, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un Premier ministre, il a autour de lui toute une série de gens qui sont parfaitement capables d'effectuer les recherches,
croyez-vous,
des renseignements, normalement oui. Hein. Écoutez, alors moi je ne crois pas, attendez, excusez-moi. Puis deuxième chose, je pense que derrière tout cela, il y a toute une série de gens. Alors
j'aimerais voir les réactions des auditeurs.
J'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais j'ai quand même bien le sentiment quelque part, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse pas être intéressé par l'argent. Je n'arrive pas à comprendre ça.
C'est un des éléments, effectivement.
Voilà, parce que...
C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul.
Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que derrière, il y a... Quand j'ai dit tout à l'heure que la différence entre les difficultés qu'avait rencontré Pasteur ou autre, c'est l'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs niveaux.
Il y a
à plusieurs niveaux.
Mouton de panure, je
oui,
dans
non, mais, oui, d'accord, ça, j'ai compris ça. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène. C'est que sont intéressés également, non pas seulement les promoteurs d'éolien, non pas seulement.
Oui, c'est vrai.
Hein, il n'y a pas qu'eux qui sont intéressés. Il y a aussi les agriculteurs ou les gens qui ont des petites parcelles de terre, qui sont très intéressés de pouvoir mettre une éolienne qui lui rapporte 800 euros ou 1000 euros par mois, même les municipalités. Donc, on va aisément fermer les yeux. Lorsqu'on est Premier ministre et qu'on a conscience de tout cela, il est quand même extrêmement difficile de partir compte.
Bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que la bonne foi?
Christian Gérondeau.
Oui, je maintiens mon point de vue. Vous avez parlé des collaborateurs. Mais les collaborateurs, ils sont tous du même bloc. Donc, ils font paraître ceux qui nient la vérité officielle comme des gens grotesques. C'est le mot qu'a employé le Premier ministre. Quand vous dites que 2 et 2 font 4, vous êtes grotesque. Parce que vous avez autour de vous des gens qui vous disent que 2 et 2, ça fait 74 ou ce que vous voulez d'autre. Donc, je ne crois pas. Et alors, la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que ces collaborateurs, ensuite, quand vous suivez leur carrière, ils sont promus. Ils ont des postes de plus en plus importants. Alors, peut-être mieux rémunérés, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est une répétition, encore une fois, la curie romaine du temps de Galilée. Ben, si vous disiez le contraire de ce que tout le monde disait, vous étiez brûlé. C'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est plus brûlé. Sans ça, je ne serais pas là, bien entendu.
Ils ont des documents officiels qui attirent l'attention de tout le monde sur le problème de la santé. Ils ont des documents officiels, j'en ai un sous les yeux, qui date de 2015.
Oui, mais il faut sauver la planète, et donc vous n'êtes pas audible. Oui, mais vous n'êtes pas audible.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Mais oui, vous n'êtes pas audible.
Mais je comprends ce que vous voulez dire.
Vous avez une cause majeure.
Et le côté idéologie.
Ça s'appelle une atteinte à l'esprit, ça.
Oui.
C'est pas compliqué.
Ça s'appelle comme ça.
Alors, Christian Gérondeau, vous avez créé, lorsque vous étiez ancien délégué interministériel à la sécurité routière, vous avez inventé Bison Futé. Vous êtes l'auteur, vous êtes l'inventeur de Bison Futé. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin, en ce qui concerne ce problème quand même extrêmement grave, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de Bison Futé se rapportant à ce sujet de la décarbonation prétendue qui ne sert à rien en fait et qui nous ruine?
Je dirais oui et non, et je dirais pas maintenant. Encore une fois, ceux qui disent la vérité aujourd'hui sont immédiatement catalogués et interdits, par exemple, d'antenne et de télévision, parce que avez la radio publique qui a une charte, on n'invitera pas les gens qui contestent le dogme climatique. Donc on les invite pas.
C'est un dogme.
Donc si vous voulez, lancer Bison Futé maintenant, ça me paraît prématuré, mais il y a une étape avant.
Oui.
Et je pense que cette étape, je l'espère, peut être décisive. C'est, heureusement, nous avons en France, et probablement, et même certainement dans d'autres pays, des responsables politiques de haut niveau qui sont animés par l'intérêt général et qui n'ont pas perdu le bon sens. Et je pense que ceux-là...
Il y a même plusieurs chefs d'État, d'ailleurs, actuellement.
Et il peut y avoir des chefs d'État. Ça va,
des chefs de gouvernement.
Ça basculera, tout ça. Ça basculera. 2 et 2, ça fait 4. Ça n'a jamais fait autre chose. Donc, le but peut-être de ce livre et puis peut-être d'autres, c'est d'arriver à convaincre avec des arguments que tout le monde puisse comprendre de la réalité des choses. Et c'est là où je pense que l'argument du flux et du stock, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, est un argument que tout le monde peut comprendre. Alors que jusqu'à présent, c'était un professeur untel qui disait le contraire de chargé de mission untel avec des équations auxquelles personne ne peut rien comprendre. Enfin, quelques rares spécialistes peut-être, mais certainement pas des responsables politiques qui n'ont pas le temps. Là, c'est d'une simplicité totale.
Ce sont des chiffres
que vous donnez. Deux chiffres, c'est tout. Il n'y a que deux chiffres. Oui. Avec un, on ne peut pas agir sur 3300.
Exactement.
Je pense que ça, c'est un message qu'on peut comprendre. Et alors, tout bascule, il ne reste plus rien. Puisque à ce moment-là, pourquoi supprimer nos émissions? Puisque ça ne peut avoir aucune influence. Parce que bien entendu, ce qu'on dit aussi, c'est ben oui, nous, on va donner l'exemple aux autres. Alors là, vous pensez, vous allez expliquer, ben je donne un exemple concret. Le Sénégal vient de découvrir un gisement de pétrole au large. Ça y est, il commence à l'exploiter. Vous allez interdire au Sénégal d'exploiter son pétrole. Et vous allez l'interdire. Et vous allez l'interdire à l'Inde, qui met en service 108 nouvelles mines de charbon, de les ouvrir. Et vous allez interdire aux pétroliers qui, du Koweït et ailleurs d'exploiter leur pétrole. Mais enfin, il faut revenir sur Terre. Et aujourd'hui, il faut savoir que les deux tiers des émissions mondiales, c'est les pays en voie de développement. Et que dans les pays en voie de développement, ouais. Et là, c'est plus drôle du tout, c'est quand vrai. Vous n'avez pas d'énergie, les enfants meurent.
Oui.
Il y a à peu près 5 millions d'enfants qui meurent chaque année oui. parce qu'ils vivent dans des pays où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, et ils meurent. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu déjà ce chiffre cité dans un rapport du GIEC ou un rapport des Nations Unies? Jamais. Jamais.
Parce non, que... ils préfèrent s'intéresser aux oiseaux.
Ben ouais. Alors, par contre, là, ils s'intéressent énormément aux oui. oiseaux.
Ou aux grenouilles qui doivent traverser une route.
Le fait que le rapport, qui s'appelle le pacte vert de l'Union européenne, commence par, il y a 1 million d'espèces animales ou végétales, j'en sais rien, en danger, ça dit tout. Voilà. Donc, et les hommes, là-dedans, ben, c'est les hommes secondaires. Hein, qu'il y ait des enfants qui meurent en Afrique, pff, alors là, ça, vraiment, la dernière de nos préoccupations. Et donc, on va très loin, puisque on interdit aux banques de financer des centrales à gaz ou à charbon dans les pays en voie de développement. Ah, par contre, on leur fait financer de l'énergie solaire. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus de soleil dans ces pays-là, mais enfin, même dans ces pays-là, la nuit, les énergies solaires, ça donne pas grand-chose.
Enfin, félicitons-nous des premières victoires de Maître Bodereau, à deux reprises d'ailleurs. Mais je voudrais souligner, parce que ces petites victoires commencent à nous redonner la foi, Maître Bodereau, dans un tout autre domaine, était intervenu d'une façon brillante pour sauver les anciennes cloches de Notre-Dame de Paris. Oui, il faut le souligner, puisque lorsqu'il y a eu un remplacement des cloches de Notre-Dame, c'était bien avant l'incendie de Notre-Dame, lorsqu'il y a eu un premier remplacement des anciennes cloches de Notre-Dame par la ville de Paris, eh bien, l'archiprêtre de l'époque avait proposé de faire fondre ces cloches pour en fabriquer des petites à vendre aux Chinois ou aux touristes.
En fait, ils voulaient les faire fabriquer par les Chinois.
Et Maître Bodereau est intervenu avec la complicité et l'appui du révérend père Jean-Paul Argouarche, que nous aimons bien, pour s'opposer à cette fonte des cloches, dont il faut rappeler que les cloches sont baptisées, que les cloches ont un parrain et une marraine, que les cloches ont un prénom et qu'elles ont donc une dimension sacrée. Et ce qui paraissait totalement oublié par cet architecte, c'est par cet archiprêtre qui envisageait de faire fondre ces cloches pour les donner en gadget à des touristes étrangers. Et bien, Maître Bodereau, mais je vais peut-être lui laisser évoquer très brièvement, en 5 minutes, cette défense des cloches de Notre-Dame qui sont à présent exposées dans le square Jean 23 à côté de Notre-Dame.
Oui, en fait, elles avaient été, lorsque j'ai été saisi du dossier, elles étaient à Vigneux-les-Poêles.
Pour être, c'est l'endroit où il y a la fonte de...
pour être fondu,
où on fond les poils.
Et ensuite envoyé en Chine pour être transformé en clochette à touristes, avec retour bien sûr à Notre-Dame, pour vendre donc aux touristes venant à Notre-Dame, visiter Notre-Dame. Voilà. Voilà. Et c'est ainsi que ça s'est passé.
Et donc vous avez pu bloquer cette fonte.
Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait j'avais préparé à l'époque, c'est un peu technique, j'avais présenté à l'époque une saisie attribution. Parce que la procédure serait trop compliquée à expliquer, mais enfin voilà, on est parvenu à les récupérer par le biais donc d'une ordonnance sur requête qu'on a présentée, qui ensuite a fait l'objet d'un débat assez tendu avec les représentants de certains représentants de l'État d'ailleurs, qui voulaient absolument les mettre dans un musée, notamment. Nous avons insisté avec les deux robes de bure que j'avais à mes côtés à l'époque pour faire en sorte qu'elles soient réintégrées là à Paris. Voilà.
Et auprès de Notre-Dame. Écoutez, vous Maître Bodereau, merci de faire mener ces combats qui nous redonnent un peu de courage et de foi en l'avenir. Le chemin, Christian Gérondeau le soulignait, le chemin est ardu et difficile, mais il faut faire éclater la vérité, y compris en ce qui concerne les mensonges relatifs à l'énergie et qui sont actuellement promus dans le cadre, en tous les cas, de ce qu'on appelle la PPE 3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie proposée par l'actuel gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez, mon cher? Est-ce que ça vous donne un petit peu de punch, mon cher Christian Gérondeau?
Ah bah d'abord, je voudrais féliciter notre avocat qui est ici présent d'avoir réussi à sauver les cloches de Notre-Dame. Vous savez, j'ai été autrefois président de la Caisse des Monuments Historiques, donc
oui.
Je suis très sensible à tout ce qui concerne notre patrimoine,
ben oui.
Et qui est quand même quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever.
Patrimoine qu'on continue d'appeler patrimoine et non pas matrimoine, mais comme le voudraient un certain nombre de personnes qui veulent rectifier la langue française en disant que tout ce qui procède du père
est... Oh, je pense quand même qu'il y avait plus d'hommes que de femmes sur les chantiers des cathédrales, mais là, je laisse ça aux spécialistes.
Bon, pour concerner les cloches par rapport au père éternel, c'est difficile.
On dit la patrie, on ne dit pas la même... on dit quand même la mère patrie.
Oui, et puis les cathédrales.
Ce qui souligne que les enfants ont un père et une mère.
Et puis la plupart des cathédrales sont consacrées à Notre-Dame. Donc
absolument.
Là, il n'y a pas de sexisme, ou s'il y en a un, c'est dans l'autre sens.
Oui, tout à fait.
Non, je pense que nous avons affaire, sur ce dossier comme sur d'autres, à un retour en arrière, je dirais même moyenâgeux. Parce que quand on regarde un peu le dossier du climat, les choses sont simples, les choses sont claires. Et on assiste à une prise du pouvoir qui date de plus d'un tiers de siècle et qui est très étonnant. Quand vous regardez les Nations Unies, parce que c'est les Nations Unies qui ont organisé tout ça. D'abord le grand congrès de Rio de Janeiro en 92. Et que vous voyez encore aujourd'hui les chefs des départements des Nations Unies. Alors il y en a deux. Il y a le département du développement et puis le département qui s'occupe des problèmes climatiques. Eh bien, vous voyez que ce sont des gens qui viennent des associations écologistes et qui se transmettent le poste de décennie en décennie. Ce sont les mêmes qui sont aux Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Le secrétaire général des Nations Unies, qui généralement n'y connaît rien, répète ce que lui disent ses collaborateurs. Et c'est là, on a des déclarations hallucinantes de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, du style « nous allons tous à la catastrophe, c'est la dernière minute, dans 30 secondes on ne sera plus là », parce qu'il ne fait que répéter ce que lui disent ses services qui sont entre les mains des ONG écologistes. C'est facile à vérifier, il suffit d'aller sur n'importe quel site et vous voyez l'origine des collaborateurs qui ont depuis plus d'un tiers de siècle le pouvoir aux Nations Unies. Et les Nations Unies, leur émanation spécialisée, c'est le GIEC. Et donc vous avez une explication parfaitement logique de la prise de pouvoir par des gens qui sont convaincus de plaider pour la bonne cause, parce que pour eux, c'est effectivement un problème de nature religieuse.
Alors, nous avons une quantité de messages qui nous arrivent et je vais être obligé de les lire les uns après les autres parce que le temps avance. Première intervention d'un auditeur. Bonjour, le physicien Robert William Wood, mort en 1955, avait prouvé par l'expérience que l'effet de serre tel que conçu par le chimiste Arrhenius, basé sur les différences de transparence des gaz ou de matériaux transparents, n'existait pas. Son expérience a été refaite récemment par un physicien indien qui a abouti aux mêmes conclusions. En plus, les modèles ne prennent aucun compte du principal phénomène de redistribution de la chaleur dans l'atmosphère qui est lié à l'évaporation de l'eau, emportant 540 fois plus d'énergie pour simplement vaporiser une masse d'eau que pour augmenter sa température d'un seul degré. Cette chaleur est restituée lors de la condensation et personne ne peut modéliser ces transferts par absence totale d'informations sur la localisation de l'évaporation et de la condensation. Ces modèles ne sont que des bricolages douteux, comme celui prétendant représenter les interactions entre océan et atmosphère qu'il ne faut jamais avoir analysé pour pouvoir croire à son caractère scientifique. Ça, c'était la première intervention. Autre intervention. Bonjour. Le point de vue développé par Christian Gérondeau apparaît simple, solide et de bon sens. Néanmoins, il contredit à angle droit une politique mondiale. Le paradoxe est stupéfiant car on a du mal à croire à une folie touchant des milliards d'humains. En pratique et pour rester local, qu'en pense J.M. Jankovici, pape français de l'écologie, qui n'est ni un idiot ni un fou, cordialement. Un autre auditeur ou une auditrice, ayant testé un panneau solaire, j'ai remarqué que la moindre nébulosité faisait chuter sa production, non seulement instantanément, mais en plus quasi totalement. En plus, dès qu'ils chauffent, et ils chauffent car ils absorbent de la lumière par définition et vocation, le rendement chute. Le solaire ne peut donc être exploité que pour recharger les batteries. et dans un pays où le ciel est le plus souvent sans aucun nuage et où les vents ne les dépoliront pas. En France, ce ne peut être qu'un gadget pour les mois d'été. Et puis enfin, un dernier message, si l'on brûle tout le stock des combustibles fossiles, on ne ferait que recycler le carbone présent dans l'air. Alors voici quelques questions variées. Je vous laisse le choix, cher Christian Gérondeau, d'apporter des réponses, si vous le souhaitez, à telle ou telle de ces questions.
Oui, oui. La première question était très intéressante, parce qu'elle était un peu longue,
oui.
Intervention, et elle parlait de modèles, d'évaporation, etc. C'est ce que j'évite complètement, parce que quand on rentre dans ce type de discussion, 99,99% des gens ne comprennent pas, parce qu'il faut être totalement spécialiste. Et l'approche que je prends, elle est totalement différente. Elle répond à une question qui n'est jamais posée. Est-ce que ça sert à quelque chose, on nous demande. Et comme on l'a dit un certain nombre de fois, non, quand on est maître de 1, on ne peut pas toucher sur 3300. Là, tout le monde comprend. Bon, alors ça, c'est la première chose. Et puis, une deuxième intervention qui était intéressante, c'est de quelqu'un qui disait, mais enfin, ce n'est pas possible. Tout le monde répète la même chose. Et au niveau mondial, M. Gérondeau dit autre chose. Ça ne va pas. Ben ça a toujours été comme ça.
Oui.
Toujours, encore une fois, Galilée n'était pas seul. Hein, il y a Copernic, oui. Descartes n'a jamais voulu le dire parce qu'il ne voulait pas être brûlé. Mais enfin, il a laissé entendre qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'on racontait. Et c'est comme ça à l'époque actuelle. Je ne suis pas du tout seul à dire que tout ça ne résiste pas à l'analyse. Il y a des tas de livres remarquables par des auteurs français, des auteurs américains, traduits en français d'ailleurs par les éditions L'Artilleur, qui explique sur des bases scientifiques que tout ce qu'on croit ne repose sur rien. Mais je conçois très volontiers que pour des gens qui ne sont pas particulièrement impliqués dans le dossier, ça ne paraisse pas crédible. On dit, mais c'est pas possible, tout le monde répète la même chose. Ben oui, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments où quelqu'un doit dire, le roi est nu.
Bon, absolument. Bon, c'est ce qu'a fait courageusement notre avocat ici présent.
Il y a également beaucoup de scientifiques. Il y a également beaucoup de scientifiques qui ont indiqué, qui ont démontré que les aérogénérateurs, que les éoliennes provoquaient des dégâts sur la santé. Ça, c'est personne ne conteste ça.
Alors, mes chers amis, Christian Gérondeau et Philippe Baudereau, messieurs, votre émission est fort intéressante et je partage les opinions échangées, même s'ils se croient opposés. Religion contre argent, alors que c'est la même chose. Concernant les oiseaux, savez-vous combien d'oiseaux migrateurs sont détruits par les éoliennes ? Plus d'1,5 million par an. Et les oiseaux sont une condition essentielle de la pollinisation. Courtoisement, vôtre. Et puis, alors c'est une question pour Christian Gérondeau. Christian Gérondeau pourrait-il nous parler de la différence entre énergie diffuse vent-soleil et énergie concentrée nucléaire. Il faut beaucoup d'installations pour produire peu dans le premier cas et peu d'installations centrales dans le second cas pour produire beaucoup. Aussi, la difficulté, voire l'impossibilité de mixer les deux productions, courant alternatif ou continu, problème de stockage, etc. Merci de votre réponse, Christian Gérondeau.
Ah ben, je ne peux que confirmer ce que cet auditeur a laissé comme message. C'est tout à fait évident. Les centrales nucléaires en France, il y en a quelques dizaines. Mais en Allemagne, il n'y en a plus. Le problème est réglé. Mais enfin, c'est vrai aussi pour les centrales à gaz ou à charbon. Ce sont des unités concentrées qui produisent de grandes quantités d'électricité. Et pour évacuer cette électricité, je vais schématiser, ben, il faut un câble électrique vers le nord, un câble électrique vers l'est, un autre vers le sud, un autre vers l'ouest. Les éoliennes et les panneaux solaires, ce n'est pas du tout ça. Ils sont répartis partout. Donc, il faut créer une trame, un réseau de petites conduites électriques. Il n'y a pas besoin qu'elles soient très puissantes, parce que c'est relativement peu de puissance par unité de production. Chaque éolienne a besoin. Mais il faut couvrir tout le territoire. Alors, les Allemands calculent.
Le territoire et la mer aussi.
Alors, quand ça vient de mer, il faut l'amener de mer. Alors là, c'est trois fois plus cher. Mais, en tout cas, les Allemands ont chiffré pour couvrir leur territoire et récolter l'énergie. C'est un budget de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Donc, cet auditeur a parfaitement raison. Parce que quand on vous parle du prix de l'électricité, en vous disant que ben maintenant, le solaire, c'est pas cher, l'éolien, c'est pas cher, ben on oublie deux choses. La première chose, c'est que cette électricité, il faut la récolter. Alors, généralement, on oublie de dire combien ça coûte, mais il faut mettre des réseaux partout, puisqu'on veut en mettre partout. Et puis, on oublie une deuxième chose, qui est fondamentale, c'est que quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, il faut avoir une autre unité de production, à gaz ou à charbon. Donc, il faut tout en double. Mais ça, on ne vous le dit jamais. On compte simplement le prix de l'électricité à la sortie du mât de l'éolienne ou à la sortie du panneau solaire, et on oublie qu'il faut tout en double. Et ça, malgré tout, c'est pas négligeable.
Maître Baudereau, quelques remarques en regard des interventions des auditeurs ?
Non, mais j'avais une pensée un peu plus large. Je pensais à monsieur le Premier ministre, pour qui j'ai le plus grand respect, bien évidemment. Mais quand je sais, on parlait tout à l'heure de la bonne foi dans ses positions, et quand j'avais un souvenir, je me rappelais les cahiers de doléances, vous savez, au moment des manifestations des Gilets jaunes, et qui ont finalement, ont été jetés à la poubelle, non, ça ne servait à rien du tout, et sont l'initiative de M. le Premier ministre. Alors, une idée me traversait, mais c'est tout à l'honneur de M. le Premier ministre, il me fait penser un peu à M. Talleyrand de Périgord, qui a fait tous les régimes.
Non, puisque vous parlez du Premier ministre...
Très malin, mais bon...
Non, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est quand même nommé par le président de la République.
Ah, bien sûr.
Et le président de la République, depuis sa première élection, a dit « Nous allons sauver la planète. »
Absolument.
La planète qui est en danger. Alors
une auditrice qui s'appelle Alice dit ceci: « Les récents procès pour vol de vent entre exploitants de parcs éoliens, les anciens accusant les nouveaux opérateurs qui installent leurs parcs en amont des vents dominants, démontre largement que ces éoliennes bloquent les vents qui devraient normaliser les transferts de chaleur au niveau de la basse atmosphère. On peut donc supposer que les phénomènes climatiques extrêmes sont favorisés par ces blocages entraînant des différences de pression exagérées entre des zones surchauffées et des zones plus froides qui finissent par surpasser les blocages. » Donc voilà encore une autre intervention particulièrement intéressante. Je rappelle, chers auditeurs, que Christian Gérondeau va publier d'ici 15 jours cet ouvrage qui évoque le désastre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cet ouvrage qui s'intitule « La décarbonation ne sert à rien et nous ruine », avec comme sous-titre « Confondre le flux et le stock ». Christian Gérondeau aux éditions L'Artilleur au prix particulièrement accessible, de 9,90 €. Voici donc ce que je tenais à souligner, mais je dois féliciter Christian Gérondeau pour qui a publié un certain nombre d'ouvrages extrêmement intéressants, et je vous invite à consulter sa fiche Wikipédia, vous trouverez certainement toutes les références de ses ouvrages, et il faut dénoncer, il me paraît douter, Wikipédia n'est pas forcément...
Quand on lit ma fiche, puisque vous l'évoquez, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un personnage épouvantable, c'est Christian Gérondeau, qui nie l'évidence. On ne dit pas qu'il s'est occupé de sécurité routière autrefois, donc c'est vraiment totalement négatif.
Rebelle à l'État.
Oui. Vous êtes coupable d'être un haut fonctionnaire climato-réaliste. Mais les épithètes, aujourd'hui, sont ravageurs en matière politique. C'est assez choquant avec le fait que les médias connaissent le phénomène des moutons de Panurge. C'est absolument triste. Et c'est la raison pour laquelle la Radio Courtoisie a une mission particulière, justement, c'est de souligner et de dire la vérité, même lorsque cette vérité dérange, ce qui est le cas en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables intermittentes. Et j'ai évoqué tout à l'heure ce terme d'intermittent qui n'est pas assez mis en exergue. Quelques derniers mots avant nous approchons de la fin, mon cher maître, en vous félicitant pour vos combats à la fois dans le domaine de la foi, du sacré, et votre combat également pour...
Non, c'est à souhaiter que pour la santé des personnes, en tout cas, répercutent le sens de cette émission. Je pense qu'il est quand même grand temps que tout le monde se bouge un peu. Il n'y a pas de... En tout cas, cette décision montre également que les efforts peuvent être aussi récompensés.
Alors je rappelle
l'article
qui vous a été consacré dans le Figaro du jeudi 29 janvier dernier, sous la plume « Alerte » de Angélique Negroni, sous le titre « Éolienne 2. La justice reconnaît leur lien avec les problèmes d'angoisse ». C'est une première. Dont il faut vous féliciter. Vous aviez également autrefois obtenu également le démantèlement d'éoliennes. Il faut sur le plan de esthétique, qui est un autre problème. Et il faut également vous en féliciter. Et Christian Girondeau, peut-être un mot, quelques 5 minutes encore de avant la conclusion de cette émission.
Oui. Vous vous demandiez si on était optimiste ou pessimiste. Moi, je suis peut-être viscéralement optimiste. Et c'est, je vais évoquer, parce que je fais rarement, un passé très, très lointain. Oui. Et quand j'étais responsable de la sécurité routière, on a oublié cette époque. Il y avait 18 000 morts par an.
Oui.
Et ça augmentait tous les ans.
Oui.
Et puis, peut-être par inconscience... j'ai réussi à convaincre qu'il fallait limiter les vitesses, qu'il fallait que tout le monde porte la ceinture de sécurité. Et aujourd'hui, c'est pas la seule cause, mais aujourd'hui, on est à 3500 tués par an, ce qui est beaucoup trop. Mais le trafic a doublé depuis l'époque que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si le nombre de morts avait doublé, on en aurait beaucoup, beaucoup plus. Et ceci pour dire que je crois viscéralement que le bon sens peut l'emporter. Le tout, c'est d'arriver à faire passer le message au bon niveau. Je ne crois pas, je ne veux pas croire que ceux qui nous dirigent, nous et puis d'autres pays, puisque c'est un phénomène européen, soient nécessairement animés de mauvaise volonté ou veulent nuire à leurs concitoyens. Je pense qu'ils sont mal informés et je ne vous cache pas que le but de ce petit livre... vous évoquiez, c'est d'être largement diffusé, ou plus exactement d'être diffusé au bon niveau de décision.
Oui, oui, oui.
Bon, le tirage, très oui. bien, mon éditeur sera content s'il y a un bon tirage.
Acquérez cet ouvrage et faites-le connaître autour de vous, y compris auprès des décideurs que vous rencontrez.
Exactement, parce qu'il n'y a aucune raison de suspecter que tous les députés, que tous les sénateurs, que tous ceux qui font, la loi, soient de mauvaise foi. Je pense qu'ils sont... mal informé, et c'est le but de cet ouvrage.
Alors, mon cher Christian, la conclusion en ce qui concerne l'énergie, parce que je vais consacrer la fin de l'émission à un sujet dramatique qui vient de se produire en France, la conclusion en ce qui vous concerne est la suivante, apportée par un auditeur. Un gisement très important de pétrole et de gaz vient d'être découvert dans la presqu'île de Yamal, sur la côte arctique de la Sibérie centrale, déjà fortement productrice de gaz. Ce gisement est sur la route arctique vers la Chine. Nul doute que la Chine et la Russie vont se priver de cette ressource pour les élucubrations du GIEC. Voici donc, sous forme amusée, la remarque d'un auditeur. Et puis, je ne peux pas terminer cette émission sans évoquer l'actualité, hélas dramatique, et le décès dans des conditions épouvantables de Quentin qui a été lynché ces derniers jours, avant-hier. Et je voudrais qu'en fin d'émission, que nous lui consacrions un hommage. Et cet hommage, ça va être le chant La Cavalcade que vous allez écouter, interprété par le chœur Montjoie Saint-Denis. Il est dédié à Quentin.
Un jour dans la fusillade, galopant à l'inconnu, nous allions. Ce fut toi qui l'as reçu. J'ai mangé l'estafila, que ce coup avait valu. Mais très tard dans la nuit froide, j'ai pleuré mon camarade, près de son corps étendu, près de son corps étendu. Je suis ma route maussade et je chevauche sans but. Au hasard d'une embuscade, j'ai perdu mon camarade. Je ne rirai jamais plus, je ne rirai jamais plus. Prince, écoute ma balade et cet appel est perdu. Prie le Dieu des cavalcades de placer mon camarade à la droite de Jésus, à la droite de Jésus.
Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 16 février 2027 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.